Eh bien, bonjour, bonjour à tous. La librairie Mola prend ses quartiers d'été en ce mois de juillet et vous donne rendez-vous exceptionnellement sur les transats et sur l'esplanade de Charles de Gaulle, quartier Mériadec, pour la seconde édition consécutive de Mériadec Plage qui se déroule donc jusqu'au 11 juillet. Et pour profiter d'une ambiance estivale, nous avons le plaisir de recevoir pour son premier roman Mélanie Sadler, pour son roman publié chez Flammarion en janvier, donc pour la rentrée en fait littéraire de l'hiver dernier. Alors le roman s'intitule, le titre est long, Comment les grands de ce monde se promènent en bateau. Alors, et roman pourtant idéal pour l'été, j'oserais dire, parce que joyeusement estival comme la programmation de Mériadec Plage, étant donné que c'est un roman qui allie avec une pertinence, une impertinence, drôlerie, érudition, fantaisie, et c'est une invitation au voyage autant dans le temps que dans l'espace auquel vous nous conviez, et on prend beaucoup de plaisir à l'emporter dans son sac pour l'été, par exemple. Alors merci d'être venu. Et alors Mélanie Sadler, donc c'est votre premier roman. D'abord, je voudrais vous demander, vous qui êtes à la base chercheuse, bientôt thésarde dans le domaine latino-américain à l'université de Bordeaux 3, comment vous est venue l'idée? Presque saugrenue, j'oserais dire, d'écrire ce premier roman.
Alors, bonjour, merci d'être venu m'écouter. Alors, comment est venue cette idée de roman? J'étais justement en train de bloquer sur ma thèse d'histoire latino-américaine et par bonheur, j'avais prévu quelques jours à Istanbul. Donc, je me suis dit, c'est parfait, ça tombe à pic, ça va me permettre de me sortir un peu la tête de tout ça et puis de me reconcentrer au retour. Bon, je suis à Istanbul et j'attends pour visiter le palais de Topkapi et je feuillette mon guide, le routard ou je ne sais quoi, et c'est là où je commence à me rendre compte de ce qui se passait au XVIe siècle dans l'Empire ottoman, que je ne connaissais que très peu, bien évidemment. Et c'est là où je me suis dit, ah mais en fait il y a des correspondances approximatives de dates entre des grands événements qui sont produits d'une part dans l'Empire ottoman et d'autre part dans l'Empire aztèque. Alors approximative, hein. Mais c'est là où en fait souvent on se rend compte que lorsqu'on considère une période historique, souvent on considère un pays ou une ère et on a peu tendance à confronter finalement des événements de différentes aires géographiques. Et donc là je me suis dit, en soi il y aura un très bon roman complètement farfelu à écrire qui réécrirait l'histoire. Bon, mais je ne pensais pas du tout l'écrire moi-même. En rentrant d'Istanbul, je continue à bloquer complètement sur ma thèse et je me suis dit, bon là tu as du temps, tu as toujours voulu écrire, tu as en plus une idée de roman en tête, et c'est de là qu'est né ce petit livre.
Donc on peut dire que l'écriture romanesque a été une sorte de pause récréative ou recréative, je dirais, dans votre chemin, dans votre cheminement intellectuel.
Oui, récréative, recréative, de récréation aussi par rapport à une thèse beaucoup plus scolaire, immanquablement académique. Et d'ailleurs, dans ce livre, je finis aussi par introduire une légère critique de l'université. Et honnêtement, je m'étais toujours dit, un jour je ferai un livre sur ce monde de l'université, et je ne pensais pas du tout le faire dans celui-ci, mais malgré tout ça devait vraiment me travailler, puisque finalement mes héros qui mènent l'enquête sont des universitaires et l'un des deux n'est pas forcément, enfin est un peu une caricature du genre.
Alors vous pensez certainement à votre premier personnage, je vous laisse le dire.
On va dire Borges à la française, sinon ça complique un peu les choses.
Merci. Alors pas José Luis, mais
Javier Leonardo, oui.
Alors J.L. Borges, bien entendu, on ne peut penser qu'à Borges, au célèbre pape de la littérature argentine, duquel vous êtes spécialiste. Littérature argentine, c'est plutôt votre domaine, et le 19e siècle aussi, pas le 16e siècle a priori. Mais comment vous est venue donc l'idée de ce personnage universitaire qui est à la fois en effet une caricature, une satire du monde universitaire, mais en même temps un universitaire vieillissant, fatigué, est-ce que il s'est imposé à vous?
Oui, alors il y a plusieurs éléments. Déjà, effectivement, mon personnage, l'universitaire, oui, s'est imposé. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je l'ai rapidement abandonné puisque je me suis rendu compte que j'avais pris une espèce de style qui allait me conduire à faire un roman fleuve. Donc 500 pages pour écrire une histoire, chose dont je n'étais pas capable puisque cela m'empêchait de travailler le style comme je le voulais. Et puis, voilà, puisque au départ, le plaisir qu'il y a à écrire un roman, c'est aussi travailler les mots, le langage. Et donc, j'ai complètement abandonné ce projet. Je le pensais avorter complètement. Et une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu mon étagère de livres face à moi avec notamment des bouquins de Borges. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est quand même le type qui arrive à inventer, à détruire tout un univers en 15 pages. Autrement dit, il y a moyen de reprendre ce projet qui me semblait un peu ambitieux dans l'histoire, les événements, etc. et de le reprendre sous un autre rythme, plus dense, etc., afin de tout de même le mener à bien. Donc cette nuit-là, j'ai écrit ma première page et mon personnage n'avait pas encore de nom. Et donc, finalement, c'est un peu par hommage à Borges qui s'appelle ainsi. En revanche, effectivement, il n'a pas le caractère forcément du Borges écrivain. C'est là les traits des universitaires. Alors, à l'université, il y a des gens très bien aussi. J'en ai rencontré beaucoup. Mais immanquablement, il y a certaines querelles d'ego, certains universitaires qui finalement, à la fin de leur carrière, sont aigris, etc. Ça se voit aussi. Et donc, effectivement, c'est plutôt sous ces traits qu'il apparaît. Alors qu'Akane est plus sympathique, je crois.
Alors justement, c'est à l'initiative de son confrère Akane, confrère turc, que sa vie, alors qu'il est professeur émérite, donc professeur à la retraite, va se trouver totalement bouleversé. Lui qui pensait mener une retraite pépère, entouré de ses vieux manuscrits, de ses vieux parchemins. C'est à la faveur de la lecture d'un parchemin du XVIe siècle envoyé par Akane, qu'il va y avoir une découverte qui va le bouleverser lui, et qui va bouleverser peut-être la face du monde, la face de l'histoire.
Oui, parce que effectivement, donc sur ce parchemin qu'Akane lui envoie depuis Istanbul, lui apparaît une déesse aztèque du XVIe siècle. Or, le parchemin date aussi du XVIe siècle. Autrement dit, cette déesse aztèque ne pouvait absolument pas être présente sur ce parchemin. Et donc, c'est ce qui lui met la puce à l'oreille. Jusqu'à voir, en plus, sur le parchemin, la date de 1492, donc découverte de l'Amérique, pour parler en bonne ethnocentriste européenne, qui lui semble complètement improbable à nouveau, puisque à ce moment-là, il était impossible que l'Empire ottoman soit au courant des événements qui se passaient de l'autre côté de l'Atlantique.
Ah, Madame Teller, est-ce que vous pouvez nous lire un petit peu le début de votre roman? Parce qu'à un moment, c'est vu pour voir aussi la dose d'humour que vous insufflez, que ce n'est pas un récit d'universitaire fatigué de qui il s'agit.
À partir de...
De là, jusque-là.
Parfait. J.L. Borges... Je vous prie déjà de m'excuser si je le dis à l'Argentine, puisque ça m'échappe assez
Allez-y.
Souvent. J.L. Borges était en train de scruter Tempéri de chaque lit qui accompagnait les comptes rendus du conseil de Suleiman. Ces notions de turc se résumant de près ou de loin à la méthode à 6000 achetée il y avait des années de cela dans un moment d'égarement, J.L. Borges préférait se concentrer sur les illustrations. L'esquisse, datée de 1520, représentait une forêt et des créatures moins réelles que féeriques. Les feuilles des arbres se voyaient dessinées avec une précision résolue, d'un trait franc et mouvementé, et J.L. Borges les surprit soudain à s'animer, comme mus par quelque esprit chamanique qui aurait croupi trop longtemps au fin fond d'une bibliothèque anatolienne. Il faillit se lancer dans une analyse phénoménologique. À l'étude, la chute lente et mesquine de ses lunettes serait révélée la cause la plus probable de cette agitation esquissée à l'encre. Mais un cafard vient interrompre ce processus, se frayant une voie sur le dessin. La bestiole, se mouvant réellement quant à elle, arracha J.L. Borges à sa torpeur. Il l'expédia d'un revers de la main et garda le regard planté à l'endroit où il avait localisé l'insecte quelques secondes auparavant. Alors ça n'allait pas du tout. Parmi les végétaux, il y avait comme un léger souci. Ce qu'il avait pris pour des feuilles dentelées sur la gauche du dessin, prolongeant le motif général, apparaissait à présent sous la forme d'un faisceau de serpents. et ces serpents constituaient de toute évidence une parure, une jupe habillant ce qui n'était pas un tronc, mais un corps de femme aux deux seins flétris bien moins champêtres que les deux oiseaux qui se trouvaient là l'instant d'avant. J.L. Borges scruta le dessin pour s'assurer de cette étrange présence. Que diable venait faire ici, dans un manuscrit arrivé tout droit d'Istanbul, la déesse aztèque de la terre, Coatlicue ? Aucun doute néanmoins, tête rectangulaire, pupilles écarquillées, cherchant à hypnotiser on ne sait qui, doigts énormes, griffes animales, jupes maillées de serpents, elle répondait au signalement de Coatlicue. Fichtre.
Merci. Alors donc ça donne assez bien le ton et la manière de votre écriture qui se poursuit. C'est un roman en effet assez dense, mais en même temps assez concentré. Et vous dites que Borges vous a donné aussi l'idée de concentrer le roman, de concentrer ce roman qui aurait pu en effet être un roman beaucoup plus long. Et vous allez nous emmener vous nous invitez au voyage, à se promener en bateau entre donc deux époques, deux intrigues parallèles. Comment avez-vous réussi ce tour de main, ce tour de...
Alors, pour les deux époques, je pense que là, à nouveau, c'est simplement, je n'aurais pas été capable non plus d'écrire toute une intrigue se passant au XVIe siècle. Cela m'aurait demandé vraiment beaucoup plus de connaissances encore sur les deux sociétés. Et donc, à défaut de dire de grosses bêtises qui m'auraient permis effectivement de le faire sur une seule période, ce jeu alterné avec la recherche actuelle m'a permis justement d'être... Alors, je ne sais pas exact, non, ça reste un roman, hein, mais de peut-être recréer des atmosphères, mais par moment précis. Et par ailleurs, effectivement, c'est ce jeu-là qui m'a permis une écriture condensée, puisqu'il m'a permis des ellipses, d'aller plus vite par moment, des périodes qui sont un peu résumées, etc., ce qui aurait été beaucoup plus difficile dans un seul cadre. Et ensuite, le voyage géographique, oui, j'ai essayé de le construire en alternant finalement les voix des personnages, en alternant notamment les voix de deux femmes qui sont importantes dans l'histoire. D'un côté, la Malinche, donc pour le XVIe siècle aztèque, et de l'autre côté Roxelane pour le XVIe siècle ottoman, sachant que les deux femmes œuvrent un peu dans l'ombre, mais que finalement c'est elles qui vont manier les ficelles derrière les hommes qui font l'histoire.
Oui, parce que derrière l'enquête que va mener donc Borges et surtout son confrère, enfin il laisse surtout son confrère Hakan mener l'enquête lui à Istanbul, et Hakan va pénétrer à la fois le bazar, il va retrouver la trace d'un historien, il va aller l'interroger, il va trouver son neveu, il va aller jusqu'à la basilique Sainte-Sophie, et d'une certaine façon on est aussi dans le roman d'aventure pure. On a l'impression, enfin moi qui lis pas mal de romans policiers, et on vous l'a dit certainement dit, d'être dans un roman, une chasse au trésor, un roman à la Dan Brown, sans le côté mystique, bien entendu, mais on a vraiment il va découvrir sous la basilique, sous le plancher, une crypte.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, roman d'aventure à grosse ficelle. Hein. Souvent, je présente ce livre comme une vaste plaisanterie, qu'elle soit à la fois historique, puisque je tourne l'histoire en dérision, littéraire, puisque j'introduis aussi finalement des références à des auteurs, etc., que je détourne. Des personnages interviennent comme le Quichotte et qui redisparaissent, etc. Donc, je pense que oui, roman d'aventure, mais à la fois roman d'aventure farcesque, peut-être.
Roman d'aventure farcesque, mais en même temps vous avez un propos quand même derrière cette farce, vous avez un propos quand même une vision assez précise de ce qu'est l'histoire et de la vérité en histoire aussi. Enfin, il y a un propos sérieux derrière aussi.
Oui, je pense que là, c'est ma formation qui me rattrape un petit peu. Mais effectivement, l'histoire, en un sens, l'histoire que je recrée, effectivement, elle est fictionnelle. Mais n'importe quelle histoire académique, officielle, est un récit. L'histoire est faite par des historiens, donc par des hommes, donc par des subjectivités. Et quand bien même ils voudraient être le plus objectif possible, ils ne seront pas, sans même parler d'historiens qui s'inscrivent clairement dans une idéologie politique, etc. Tout historien qui a la bonne volonté de faire dans l'objectivité dépend de circonstances, de sa culture, de sa formation, conditions, de oui, non, aussi ouais, d'une espèce de conditionnement culturel lié à son époque et voilà, donc aucune histoire ne sera jamais objective. Donc à savoir à quel point celle-ci les moins ou plus que d'autres, ça il faut le dire pour.
Alors vous nous avez raconté comment vous est venue cette idée farfelue, mais après comment vous avez vraiment eu l'idée de rattacher ces deux époques, ces deux lieux, ces deux temps, parce que c'est quand même alors la migration de cette déesse aztèque Coatlicue sur un manuscrit ottoman du XVIe siècle, il fallait quand même l'inventer.
Alors ça, c'est vrai que ça a été le point de départ complètement fictionnel qui m'a permis ensuite de commencer l'histoire qui m'était venue. Et en l'occurrence, cette histoire m'est venue, oui, de la correspondance de certaines dates entre les deux empires, entre deux personnages notamment, le dernier empereur Inca et Suleiman le Magnifique, à quelques années de différence, mais c'est là où la fiction intervient tout de même. Et puis la bataille d'Alger, dont je ne veux pas trop en dévoiler à présent, mais la bataille d'Alger, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait les Turcs en présence, et ainsi que un Cortés, donc quand même le conquistador, sans doute le plus connu. Et c'est là où, alors certes, après, je fictionnalise une partie de cette bataille aussi, bien évidemment, mais n'empêche qu'il y a plusieurs événements concomitants qui, au-delà d'une simple date qui m'aurait semblé peut-être un peu, enfin, une seule date concomitante, une date approximative, m'aurait semblé trop faible en fait pour monter toute cette supercherie. Mais là, c'est vraiment plusieurs événements qui m'ont fait me dire tiens, il y a quelque chose qui peut se tenir dans l'ordre de la fiction.
Oui, parce qu'au final, on se dit mais tout est plausible en fait, tout est vraisemblable.
J'ai essayé de faire en sorte que oui, cela paraisse plausible, alors que c'est gros.
on se laisse totalement prendre et piéger par le plaisir de ce récit endiablé, quoi. C'est vrai que votre verve, et en même temps l'érudition qui est mêlée au ton ironique et quelquefois la distance que vous prenez par rapport à votre propre formation fait que voilà, il y a un tour de main vraiment vraiment réussi, et on se laisse embarquer totalement. Ça c'est une grande réussite de votre roman.
Merci beaucoup.
Je voulais vous demander aussi par rapport à la découverte, donc cette découverte de Borges et de Hakan, est-ce que votre parti pris, votre vision, si on peut le dire ainsi, est-ce que c'est aussi de montrer que la littérature, au final, ou l'histoire, ou les deux finalement, sont des recréations et des réinventions permanentes?
Oui, alors comme je l'ai dit précédemment, pour l'histoire, bien sûr, c'est une recréation permanente, puisque finalement chaque historien la considérera selon son propre point de vue et sa propre époque. Et puis la littérature également, puisque en l'occurrence, si je m'amuse aussi à tourner la littérature en dérision, c'est une forme d'hommage, puisque je ne pense pas on ne peut pas écrire sans avoir lu. C'est la littérature qui nous a nourris, qui nous permet d'écrire après. Et en soi, ces références, elles se sont presque imposées à moi immédiatement. Alors après, bien sûr, dans le travail du texte, il a fallu parfois rééquilibrer. Donc certaines, je suis allée les chercher par après, etc. Mais ce jeu avec la littérature, oui, c'est imposé à moi, vraiment.
Et c'est un vrai jeu de piste aussi pour le lecteur, parce que quelquefois vos références, elles sont explicites. En effet, en exergue de vos chapitres, vous citez Montaigne, vous citez plein d'auteurs, Borges bien sûr, vous citez Les Mille et Une Nuits, bien entendu. Alors comment ne pas penser aux contes orientaux, aux contes de fées, enfin tout cet univers imaginaire qui vous a nourri. Mais en même temps, certaines références sont plus cachées.
Oui, je pense, peut-être pensez-vous aussi à Vialat qui intervient au milieu du texte. Vialat avait un potentiel, c'était sa marque de fabrique, de finir ses chroniques par « et c'est ainsi qu'Ala est grand ». Et à la fin d'une de ses chroniques, il fallait bien que vacances se passent et c'est ainsi qu'Ala est grand. Et or, Hakan n'en peut plus de passer ses vacances à faire de la recherche pour Borges qui l'a qui lui a demandé d'aller fouiller les fonds de la bibliothèque d'Istanbul. Et bon, il essaye de s'en faire une raison. Il se dit que bon, en un sens, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il faut bien que vacances se passent, et c'est ainsi qu'Alain est grand. Effectivement, là, peut-être que là, il y a une note de bas de page, mais sinon, par moment, effectivement, il y a, enfin, la référence demeure un clin d'œil, effectivement.
Oui, c'est pour cela que votre roman est aussi bien destiné au parfait néophyte, mais dans le bon sens du terme, au parfait, voilà, celui qui aura l'illusion totale, qu'à celui qui est plus amateur ou plus averti et qui va lire entre les lignes.
Oui, et je vous avoue que quand j'ai commencé à introduire plein de références, j'ai beaucoup pensé à Astérix et Obélix, qu'une BD qu'on peut relire 10 fois et retrouver des jeux de mots qu'on n'avait jamais vus auparavant. Je me suis dit, si j'arrivais à atteindre ce degré de richesse dans le texte, je ne suis pas sûre d'y être parvenue, mais en tout cas, c'était un peu un des objectifs aussi.
Oui, on voit que la littérature la plus populaire, la plus riche et où la littérature la plus savante se côtoie se lise dans votre intertexte, quoi. C'est vrai que ça c'est appréciable parce que c'est vraiment destiné au plus grand nombre, quoi.
Bah c'est l'ensemble, c'est les deux types de littérature qui m'ont nourri de toute façon, et je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on puisse faire vraiment une différence marquée entre du populaire et de l'érudit pur.
Et ce mélange des genres, c'est là aussi que le mélange opère pour Akan aussi et Borges, puisque vous allez avoir des chapitres qui vont entièrement se passer au XVIe siècle, à l'époque de Suleiman, palais de Topkapi avec Roxelane, et donc vous faites aussi des clins d'œil à Montesquieu, à Roxane, l'esclave et la confidente, la femme aimée de Zbeck dans les lettres persanes, et en même temps vous transportez votre lecteur à Istanbul, l'empereur aztèque, pardon, excusez-moi, le dernier empereur aztèque qui aurait migré lui aussi.
Oui, alors c'est là où effectivement...
Il ne faut pas trop en dire.
Sans trop en dire, dans ma recréation d'histoire, l'Empire aztèque, finalement, enfin, les derniers empereurs apprennent qu'il y a une menace, qu'un certain colon était venu quelques années auparavant envahir ce qu'on n'appelait pas encore l'Amérique latine. Et l'empereur en place, à ce moment-là, ne prend pas la menace au sérieux. En revanche, son frère, si, et il décide d'envoyer le dernier descendant ailleurs pour préserver la race au cas où finalement un envahisseur finissait par mettre à sac l'Empire aztèque.
Et donc d'où la possible, probable, hypothétique migration de au sens physique du terme
de cet empereur vers d'autres terres,
vers là où le soleil
voilà, il fait il fait le trajet inverse à celui qu'opéraient les conquistadors à l'époque.
D'accord. Et en même temps, vous faites aussi référence à une autre énigme très policière, là aussi, celle du Sphinx, de la Sphinx à Oedipe. Par les notes qui sont retrouvées par l'historien Roussard, Célic, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous faites un lien par rapport à l'autre grève qui a connu aussi bien des tourments à retrouver ses origines.
Oui, puisque... Alors, je vais avoir du mal à développer le point sans trop en dire, mais effectivement, c'est par une énigme de la sorte que Akan, enfin, c'est à une énigme de la sorte qu'Akan va se confronter et qu'il va devoir résoudre finalement pour comprendre où se cachent des informations sur Suleiman le Magnifique.
Et vous disiez tout à l'heure Et justement, c'est ce qui transparaît aussi quand on le lit et quand on le relit, votre texte, puisqu'il se relit le rôle des femmes. Alors, très important, et en même temps, vous opérez là aussi un renversement du rôle établi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que bon, il y a la Diasquatlicu, il y a aussi donc Roxelane, il y a la Malinche. Oui. Est-ce que le rôle de ces femmes était indéniablement là quand vous avez commencé votre texte, ou est-ce que ça s'est construit petit à petit?
J'ai assez rapidement pensé à établir un rapport, une espèce de jeu d'écho entre la Malinche et Roxelane, puisque ce sont deux femmes un peu de l'ombre. Donc la Malinche, c'était la maîtresse du conquistador, donc de Cortés. Maîtresse et interprète, puisqu'elle a rapidement appris l'espagnol. Donc elle a été d'une grande aide pour Cortés, finalement, pour conquérir les peuples indiens. Et encore aujourd'hui, ça reste une figure assez ambiguë et controversée, puisque à la fois on la prend pour il y a un juron au Mexique qui est el hijo de la chingada, donc le fils de pute, et cette putain en question, c'est bien la Malinche, puisque c'est la grande traîtresse. Et d'un autre côté, la Malinche, c'est aussi un peu la mère de tous les Mexicains, puisque les Mexicains sont bien le fruit de cette union entre peuple indigène et conquistador espagnol. Voilà, donc cette figure ambiguë m'a plu, et donc j'ai aimé finalement lui donner encore plus d'ampleur que ce qu'elle n'a eu dans la réalité, puisque je la fais tromper carrément Cortés. Je la fais se venger de Cortés. Donc je ne vous dirai pas comment, puisque ce serait trop en dire. Mais voilà, donc ça, c'est donc pour la Malinche l'une part. Et d'autre part, Roxelane, oui, à nouveau, dans ses sérails de femmes, les maîtresses du sultan, elle a eu un rôle vraiment historiquement parlant important. Donc il semble qu'elle se soit, donc ça a été une esclave qui a été enlevée de sa terre, de sa famille, qui a été offerte ensuite au sultan. Et peu à peu, elle a réussi à prendre beaucoup d'importance. Notamment, elle s'est convertie à l'islam, et ce qui lui donnait certains droits. Donc, au bout d'un moment, elle a dit au sultan, maintenant, soit tu me prends comme femme, soit tu n'as plus les mêmes droits que tu avais sur moi auparavant comme esclave. Donc, elle a réussi peu à peu à se faire une place. Et effectivement, les grands d'Europe savaient que pour atteindre Suleiman, parfois, pour négocier avec lui, etc., parfois, il fallait aussi passer par Roxelane. Et donc cette femme, on l'accuse même d'avoir fait, alors ça c'est dans la légende historique, d'avoir fait brûler une partie du palais de Topkapi, etc., de gérer dans la descendance pour que ce soit ses enfants qui règnent. Et pas, enfin, alors là où est la part de vérité et de légende, je ne sais pas exactement, je ne suis pas spécialiste de ce personnage, mais il m'a beaucoup plu. Puis voilà l'écho avec les lettres persanes, etc., où effectivement Roxane dans les lettres persanes est aussi un personnage fort. Et voilà, de montrer que finalement ces femmes dans l'ombre tirent les ficelles. On a en apparence Cortés d'une part, de l'autre Suleiman, et finalement d'avoir redonné un rôle prépondérant à ces femmes, ça m'a semblé important, d'autant plus que effectivement là dans l'histoire officielle, à nouveau l'histoire officielle, même s'il y a quelques changements ces dernières années, mais l'histoire officielle c'est avant tout une histoire d'hommes faite par des hommes, on ne parle pas des femmes.
Oui, et en effet, il faut montrer aussi le rôle de Roxelane en tant que confidente de Soliman. Il va se confier à elle comme le fait Scheherazade en fait dans le Conte des Mille et Une Nuits. Vous inversez là aussi les rôles parce que c'est lui qui va compter ses secrets, et vous leur donnez un rôle prépondérant aussi parce qu'elles tirent les ficelles, elles sont des véritables instigatrices, manipulatrices politiques aussi, ce sont des fins stratèges.
Oui, tout à fait. C'est dans ce sens-là qu'elle tire les ficelles, et c'est Roxelane notamment qui va encourager Suleiman à lui livrer son histoire. Donc, ce qui nous est tout de même important pour nous lecteurs, puisque ça nous permet d'avoir le fin mot de l'histoire. Et elle l'encourage à s'engager dans une guerre en alliance avec François Ier, etc.
Oui, parce que derrière, il y a aussi l'histoire de Charles Quint, de François Ier, et elle va...
C'est une vaste histoire. Moi, je trouve ça assez passionnant. Enfin, de se dire, par exemple, qu'il y a eu une alliance tout de même entre François Ier, le roi très chrétien, et l'Empire turc contre Charles Quint, qui était un autre pôle de la chrétienté. C'est quand même très amusant. Ça prouve que finalement, les relations diplomatiques basées sur l'intérêt ne datent pas d'hier.
Et quand j'ai lu votre texte, votre roman, j'ai pensé aussi, en le relisant une deuxième ou une troisième fois, que votre regard sur l'histoire ou sur la littérature et ce mélange de ce renversement, cette subversion des codes, me faisait penser aussi aux travaux d'un autre universitaire qui s'appelle Pierre Bayard. Je ne sais pas si on vous a déjà fait la remarque ou la comparaison, mais j'ai pensé, enfin voilà, quand il parle de la façon dont la littérature, la théorie littéraire doit s'affranchir des codes, des genres, et lui-même il invente un narrateur ironique pour raconter combien la littérature est riche justement de cette transgression de la chronologie. Il attribue à des œuvres d'autres auteurs, il modifie la chronologie, il mène des enquêtes policières à rebours. J'ai trouvé ça, ce côté récréatif et cette désacralisation de la chose littéraire ou de la chose historique, assez proche de votre façon de faire.
Alors, c'est là où ma grande ignorance me rattrape. Donc, je ne connaissais pas. Il faudrait que j'aille voir Bayard, donc, parce que ça a l'air très intéressant. Effectivement, oui, désacraliser le texte, ça me semble important aussi, tout en gardant un certain respect envers la littérature. L'un n'empêche pas l'autre. Mais j'aime jouer, oui, aussi bien avec les codes historiques que littéraires.
Et est-ce que ça vous a donné justement l'idée, l'envie de réitérer?
Alors oui, mais on ne sait jamais avant d'écrire ce qu'on écrira la fois d'après. Mais je ne pense pas à reprendre ce type de schéma narratif. Moi, je vous dis, ce livre m'est un peu tombé dessus. Hein. C'est vraiment par des circonstances assez improbables, finalement, que je suis venue à l'écrire. En revanche, je pense que, par exemple, le voyage va continuer à me nourrir. Enfin, dans mes projets ultérieurs, je sais que le voyage réinterviendra, puisque finalement, c'est aussi des moments où on prend peut-être plus le temps de noter les choses autour de nous, ce qui est navrant, puisque finalement, au quotidien, il y a beaucoup de situations à relever. Mais des moments où on s'imprègne d'énormément de choses, justement, qui nous sont moins familières et qui nous nourrissent, oui.
Et le voyage sera aussi de l'ordre de l'époque aussi. Est-ce qu'il y aura aussi une sorte de voyage dans le temps?
Je ne pense pas. Enfin, alors là, voilà, je ne l'ai toujours pas écrit. Hein. J'ai commencé à voir si déjà je l'aboutis, ce projet, ou si je passe à autre chose. Non, je pense que ce serait beaucoup plus contemporain, mais cela risque aussi de passer par diverses contrées, par contre.
D'accord. Eh bien, merci Mélanie Sadler d'avoir pris ce temps de rencontre avec nous. Il y a la librairie Mola qui s'est déportée quelques instants vers ce myriade des plages. Bon, eh bien, je pense que nous pouvons conclure sur le mystère du roman et vous inviter à lire ce beau roman avec ce titre déjà qui est une invitation comme la couverture, ce qui est vrai, qui est magnifique, magnifiquement ouvragé, qui fait penser à ce manuscrit qui ouvre le roman. Merci beaucoup Mélanie Sadler.
Merci beaucoup à vous.